On va lire Romains 7, les versets 1 à 6, et puis quelqu'un continuera 7 à 12. Un volontaire? Oui, 1 à 6, et quelqu'un pour 7 à 12.
D'accord. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il vit. Si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la lie à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions du fruit pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli.
Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? Certes non, mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras pas ». Et le péché, profitant de l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement est venu, le péché a pris vie et moi je mourus. 10 aussi ou...
Jusqu'à 12.
Jusqu'à 12, pardon. Ainsi, le commandement qui mène à la vie se trouvera pour moi mené à la mort, car le péché, profitant de l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Ainsi, la loi est sainte et le commandement saint, juste et bon.
Très bien. Donc, ça commence par parler d'une illustration de mariage. Et là, il ne faut pas prendre ce texte comme étant un texte qui donnerait des conseils spécifiques sur le mariage, le divorce et la possibilité de se remarier. Ce n'est pas vraiment le sujet de cette illustration. Qu'est-ce que dit Paul ? D'abord, il s'adresse à des gens qui connaissent la loi. Donc, on peut supposer qu'il s'adresse à des chrétiens d'origine juive ou des chrétiens païens qui sont au fait des coutumes et de la tradition et de la loi juive. La loi, ici, c'est plus que les 10 commandements et les commandements qui viennent avec, qu'on trouve dans le Pentateuque. C'est le principe de la loi, parce qu'il n'y a pas d'article dans le texte original en grec de l'époque, et donc c'est un principe de loi, de règle qui est imposé de l'extérieur. Et il dit que cette loi, elle régit, elle a du pouvoir sur un individu, sur un homme, aussi longtemps qu'il vit. Mais une fois que cette personne est morte, la personne est dégagée de la loi. Si vous avez des dettes, vous devez payer ces dettes. Mais le jour où vous mourrez, même avec des tas de dettes, les créanciers ne vont pas venir au cimetière frapper à la porte de votre tombe. Vous êtes libéré de cette loi. Donc il dit, dans cet exemple, il y a une femme qui est mariée, verset 2. Elle est mariée à un homme. La femme n'avait pas le droit de divorcer dans le judaïsme. Et il se trouve que cet homme meurt. À ce moment-là, la femme est libre d'épouser un autre homme. Il nous explique l'application, l'interprétation de cette image. Il nous dit les Juifs sont sous la contrainte de la loi. Là, on revient à la loi des 10 commandements et des commandements attenants. Mais il nous dit, verset 6, « Nous sommes dégagés de la loi, car nous sommes morts à la loi. » Et si on est mort à la loi, on est ainsi libre d'être uni à un autre homme, qui est le Seigneur ressuscité. Ça, c'est le verset 4. On peut être marié avec le Seigneur. Alors, identifions un peu les personnages. La femme, c'est vous et c'est moi. Ce sont les chrétiens. Le premier mari, parce qu'on voit au chapitre 4, vous êtes mort à l'égard de la loi. Le premier mari, c'était la loi. Le premier mari, c'est un peu notre vieille nature qu'on a hérité d'Adam. Mais nous avons cette vieille nature a été crucifiée avec Jésus. Ça, on l'a vu dans Romains 6:6. La mort dont il est question, qui nous libère de l'emprise de la loi, c'est la mort avec Christ. Et le nouveau mari, c'est Jésus-Christ ressuscité. Alors ça, c'est toujours un peu difficile de se rappeler de cette allégorie, de cette comparaison. Paul avait repris une idée qu'il avait laissée au verset. Dans le chapitre 6, il avait parlé de la loi, puis il avait fait une digression, et il revient à la loi. Et il ne veut surtout pas qu'on pense que la loi est mauvaise. Il le dit plus bas, au verset 12, « La loi est sainte et le commandement saint, juste et bon. » Le psalmiste dit que la loi rend parfait. La loi en elle-même n'est pas mauvaise. C'est pas quelque chose que l'on doit mépriser, mais on va essayer d'illustrer ça avec une petite comparaison, une petite histoire. C'est une petite histoire qui a été dont l'auteur est un pasteur d'une église Calvary, et j'ai toujours beaucoup aimé cette illustration. Voilà. Vous êtes marié à Monsieur la Loi. C'est un mariage très intéressant. Vous vous réveillez un beau matin, et là, à côté de vous, se trouve Monsieur la Loi, ou Monsieur Parfait, parce que la loi est parfaite. Il est déjà réveillé. Il a le sourire, ses yeux sont grands ouverts, son haleine est fraîche comme de la menthe pure, pas un cheveu n'est décoiffé sur sa tête, même ses pyjamas sont encore repassés parfaitement avec un pli impeccable. Son côté du lit est parfaitement droit. Ses draps ne sont même pas froissés. Il saute du lit avec un grand bonjour, le sourire aux lèvres, et il va directement dans la cuisine. Là, il se prépare un petit déjeuner nutritif, parfaitement équilibré. Car tout en lui, rappelez-vous, est parfait. Pas de café ou du croissant au beurre pour Monsieur la Loi. Non, il prépare deux tranches de pain complet avec de la margarine sans cholestérol et un bol de germe de blé. Il est parfait. Il ne fait pas de miettes. Pas une seule miette n'est laissée sur la table. Il porte ses couverts à l'évier où il les rince et les essuie systématiquement. Il se rend ensuite dans la salle de bain où il prend sa douche sans gaspiller d'eau chaude. Il se prépare pour partir au travail. Il met son costume qui est parfaitement repassé de la veille, une chemise amidonnée parfaitement blanche avec sa cravate parfaitement nouée, pas un de ses plis mal faits, un nœud mal fait, c'est impeccable.
Il a fini sur les trois plis derrière aussi.
Voilà. Il n'a raté aucune des ceintures de sa boucle, des boucles de son pantalon en mettant sa ceinture. Tout en lui est immaculé, parfait. Il se dirige vers la porte et avant de sortir, il vous fait une bise parfaite sur la joue. Il part en voiture. Il respecte le code de la route dans son esprit et à la lettre. Ralentit pour les piétons. Ralentit dès qu'il voit le feu vert passer à l'orange ou les accélérer. Il arrive au travail à 8h exactement. Pas 7h59 ou 8h01, non, il commence à 8h précises. Il se met au travail dans l'entrain. Il accomplit tous ses objectifs de la journée. Il retourne à la maison exactement à 5h, pas 4h59 ou 5h01. En entrant, il vous fait une bise parfaite sur la joue, l'autre joue. Votre mari, monsieur Laloi, monsieur Parfait, est de retour à la maison. Il s'occupe alors de ses tâches quotidiennes, ce qu'il fait parfaitement. Et vous vous dites, quel bonheur, je suis vraiment gâté. J'ai épousé monsieur Parfait. Mais vous avez remarqué quelque chose d'intéressant. En entrant et en vous voyant à la porte d'entrée, il a eu un petit étonnement sur son visage, car il a remarqué que quelques-uns de vos cheveux n'étaient pas bien mis en place. En entrant dans la cuisine, vu qu'il mesure 1m90 parfait, il voit au-dessus du réfrigérateur. Et là, où vous ne pouvez pas voir, il remarque de la poussière. Et là, une petite grimace assombrit son visage. Remarquant que c'est bientôt l'heure du dîner, il va se brosser les dents dans la salle de bain. Il se brosse toujours les dents avant et après les repas. Mais là, il remarque, horreur, que le tube de dentifrice... Vous le pressez au milieu au lieu de le rouler depuis le bas, comme il faut faire parfaitement. Il vient s'installer pour le dîner. Vous avez travaillé dur toute la journée pour essayer de préparer le repas parfait pour Monsieur Parfait. Et en attendant que la boisson soit servie, il prend un verre et remarque... Vous n'avez pas dû utiliser ni vaisselle parce qu'il y a des taches sur le verre. Il commence à froncer le front. C'est un repas délicieux que vous avez préparé, 6 plats. Mais il remarque que sur la première entrée, le persil est légèrement flétri. Et cela comme le consterne. Parce que le problème, c'est qu'il est parfait. Le problème, c'est qu'il exige de vous la perfection. Et là, vous commencez à déchanter. Très rapidement, vous n'en pouvez plus. Le monsieur parfait. Et vous vous dites, je dois me libérer de monsieur parfait. Et la seule chose qui pourrait, la seule façon légale d'être libéré de monsieur parfait, ce serait la mort de monsieur parfait. Et c'est ce qu'il dit, si vous regardez bien, au verset 2 et 3 du chapitre 7. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la lie à son mari. Si donc du vivant de son mari elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est libérée de la loi, n'est donc pas adultère en devenant la femme d'un autre. Ah, elle se dit, ça y est, j'ai la solution. Si je mets un peu d'arsenic dans le jus d'orange de Monsieur Parfait, je vais pouvoir enfin revivre. Le problème, c'est que Monsieur Parfait a un système immunitaire parfait. Ses reins filtrent parfaitement le poison. Son corps est robuste. Il est plein de jeunesse, de vigueur. Il ne vieillit pas. Il ne change pas. Dans Matthieu 5, 18 et Luc 16, 17, Jésus a dit que le ciel et la terre passeraient avant qu'un iota ou un seul trait de lettre de la loi ne soit enlevé. La loi, elle est en parfaite santé. Vous réalisez donc que ce monsieur parfait, il ne va pas mourir. Et vous réalisez qu'il ne va pas mourir et que vous êtes coincé. Et donc, vous êtes désespéré quand il arrive, vous vous échappez, vous claquez la porte, vous partez faire un tour dans la rue. Vous pleurez en vous demandant comment être libéré de cet idéal de perfection que vous n'arrivez pas à suivre. C'est un soir glacial comme ce soir, il pleut, il y a de la grêle, mais vous êtes tellement désespéré que vous ne remarquez même pas. Vous rentrez à la maison, vous êtes enrhumé, votre corps est frigorifié, votre température monte, la pneumonie s'empare de vos poumons. En quelques heures, vous vous retrouvez mourante et vous mourrez. Et juste avant de mourir, vous dites « Ah, voici donc la façon d'échapper à Monsieur Parfait. Il faut que je meure. » C'est ce que Paul explique, verset 4. « De même, mes frères, vous aussi, vous êtes morts à l'égard de la loi par le corps du Christ pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. » Monsieur la loi ne meurt pas, Monsieur parfait ne meurt pas, mais Paul explique une vérité essentielle. La loi ne meurt pas, mais vous, vous mourrez en Christ. Galates 2:20, je suis crucifié en Christ, ce n'est plus moi qui vis. La vie que je mène, je la vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Dans Romains 6, on a vu cette vérité un peu spirituelle, un peu mystique, que quand Jésus est mort sur la croix, notre vieille nature était aussi sur la croix. On a vu que ça voulait dire que vos péchés étaient pardonnés, que le pouvoir du péché, du vieil homme, on dit des fois de cette vieille nature de pécheur, ce pouvoir était anéanti. Vous devez vous considérer comme mort au péché. Présentez vos membres au service de Dieu. La loi reste, mais parce que nous sommes morts, nous avons maintenant la possibilité d'épouser quelqu'un d'autre. Et on n'épouse pas Monsieur la loi, on épouse Monsieur l'amour. On entre dans une nouvelle relation lorsque nous naissons de nouveau. Jésus lui-même disait à Nicodème, tu dois naître de nouveau, tu dois naître d'en haut pour entrer dans le royaume des cieux. On doit mourir à nous-mêmes et naître de nouveau. Monsieur l'amour est aussi parfait que Monsieur la loi, car il a satisfait toutes les exigences de la loi. Mais la grande différence entre Monsieur l'amour et Monsieur la loi, c'est que Monsieur la loi vous dit « Je t'aime si tu enlèves la poussière du haut du frigo, si tu sers un repas parfait, si tu presses le tube de dentifrice par le bas au lieu d'attaquer par le milieu, si tu fais toutes ces choses, alors je te donnerai mon amour. » Monsieur l'amour, il nous dit, nous regarde et nous dit « Je t'aime. » Point final. Absolument, inconditionnellement. Dans les Proverbes, dans 1 Pierre 4, 8, on a cette phrase qui dit « L'amour couvre une multitude de péchés. » Jésus m'aime, et parce qu'il m'aime, cela couvre une multitude de péchés. l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament s'occupait des règles extérieures, mais même dans l'Ancien Testament, il était dit que Dieu allait se préoccuper de l'intérieur. Dans Ézéchiel 36, 26, il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je j'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. » On retrouve ça dans Jérémie 31, 33. L'Ancienne Alliance était d'obéir à des règles extérieures. Le Seigneur lui fait une chose nouvelle. Il nous donne un nouveau cœur, un cœur neuf. Et donc la nouveauté, c'est que Dieu me donne un nouveau cœur. Et c'est pour ça que la vie chrétienne est tellement libératrice. Je ne suis pas là à essayer de plaire à Monsieur Parfait. Je sais que Monsieur Lamour m'aime et ça me transforme. Il ne donne pas un livre de règlement. Il change nos cœurs et il transforme nos désirs. Il nous dit aussi que la loi, elle nous montre, on en a déjà parlé, elle nous montre le péché. On peut obéir à des règles, par exemple dans le code de la route. On paiera pour Anna qui va passer son permis demain. À quelle heure ?
L'après-midi.
Voilà, moi quand j'ai tendance à conduire vite, parce que j'ai toujours des choses à faire jusqu'au dernier moment, et pour arriver à l'heure, il faut accélérer. Hein, c'est une bonne justification. Et ça peut être très imprudent. On peut rouler là où il faut rouler à 50 à l'heure, par exemple sur la voie rapide. On peut se retrouver à 80 ou 90.
Ils ont affaissé la voie rapide maintenant. Il n'y a plus de fatigue.
Mais je me souviens, quand Sébastien, mon deuxième fils, est né, que je l'ai ramené à la maison, j'aurais pu aller jusqu'à 60 à l'heure ou 50 à l'heure, mais j'avais tendance à rouler à 30 à l'heure. Pourquoi ? Parce que c'était l'amour qui me motivait. Je voulais surtout pas causer un accident où mon nouveau-né, mon petit bébé nouveau-né, aurait pu être blessé. Et c'est une motivation complètement différente. Au lieu de regarder pour voir s'il y a un radar ou s'il y a une voiture de police derrière moi, j'ai de l'amour pour quelqu'un et je fais attention à ne pas mettre cette personne en danger. Donc j'espère que vous avez vous souvenir de cette illustration de Monsieur Parfait. Et Nancy est contente que je ne sois pas Monsieur Parfait. J'ai des tendances perfectionnistes, on va vous dire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette interprétation, cette illustration ? Est-ce que ça vous... Est-ce que vous voyez un peu l'idée de cette illustration de Paul ? Et je trouve que cette mise en scène par cette comparaison, c'est très fort parce qu'on visualise cette perfection qui au début peut nous plaire, mais qui finit par nous étouffer parce qu'on n'est pas capable d'y accéder. On n'est pas capable de... Et à la fin, on n'en peut plus, on a envie de crier.
Ça va bien, hein ?
C'est ce que fait la personne qui réalise qu'en fait, elle doit mourir. On doit mourir à notre vieille nature pour être libéré. La loi, elle reste parfaite. C'est très important. La loi n'est pas mauvaise en elle. Mais la loi, elle est faite pour nous montrer notre péché. elle est là pour nous montrer qu'on n'y arrive pas, qu'on ne peut pas y arriver par nos efforts. Cette pauvre femme, toute la journée, elle préparait et il suffisait que le persil qu'elle mette se tombe un peu pour que Monsieur Parfait lui fasse une grimace. Et c'est tellement décourageant, tellement désespérant, que soit on laisse tout tomber, soit on se suicide. Mais c'est bien que tu le vois. C'est le samedi matin que tu peux venir aider.
Ah oui.
La loi, c'est un révélateur. Ça m'est arrivé plusieurs fois quand je fais du sport avec l'église. Première fois, c'était en jouant au volley au jardin de Signé. J'avais plongé avec, mais j'étais en blue jean, j'étais pas en short, j'avais plongé, je m'étais cassé la clavicule. Et j'espérais que ça ne serait pas cassé, pourtant les gens m'ont dit ça fait crack. Et je suis allé aux urgences à Saint-Roch, j'ai attendu 6 heures.
Ah oui, là, toi,
c'est les urgences.
C'était bien Saint-Roch.
Voilà, oui. Et finalement, j'ai pu passer une radio. Et j'espérais que le médecin m'avait dit, oh, je ne pense pas que ce soit cassé. Et j'attendais le verdict de la radio. Et le gars m'a dit, non, c'est fracturé, c'est cassé. Et si j'avais commencé à maudire l'appareil à rayon X, oh, espèce d'imbécile de machine, ce serait ridicule. Et la loi, de la même façon, on ne va pas la maudire, on va pas. La loi est pure, la machine marche bien, elle fait son travail, elle révèle qu'il y a un problème. Mais pour pouvoir être accepté par Dieu, on ne va pas y arriver en essayant nous-mêmes d'être à la hauteur de ces 10 commandements et tous les autres commandements. Par contre, si on meurt à nous-mêmes et qu'on se confie en Jésus-Christ, c'est lui qui vient vivre en nous et nous pouvons compter sur lui pour nous transformer par l'Esprit Saint. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions là-dessus? Il va plus loin, il dit, que dirons-nous donc, verset 7, la loi est-elle péché? Certes non, mais je n'ai pas connu le péché que par la loi. Je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit, tu ne convoiteras pas. Des fois, si on nous interdit pas quelque chose, on ne s'aperçoit pas qu'on ait tendance à faire cette chose. Et Paul, là, confesse qu'il avait tendance à envier ce qu'avaient les autres autour de lui. Ça peut être des possessions matérielles, ça peut être des relations avec des personnes, ça peut être des richesses. Et en fait, parce que la loi lui disait « tu ne dois pas avoir du désir pour ce qui ne t'appartient pas », ça lui a permis de voir qu'en fait, il avait ce désir. Ça lui a montré son péché. Et il dit même que le péché, profitant de l'occasion, et ça c'est une expression militaire qui veut dire que le péché utilise ce problème comme une base de départ pour nous emmener plus loin dans le péché. Le péché profite de l'occasion et produit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Et donc, quand il y a la loi, le péché est bien vivant. Et il suffit de dire à quelqu'un, ne touche pas de peinture fraîche. Et tous les gens vont venir et voir si la peinture est vraiment fraîche. À tel point qu'il y avait, il y a une histoire authentique, il y avait un hôtel en bord de mer à Seattle. Et en fait, parce que c'est les balcons donnés à marée haute, La mer venait frapper le bas du bâtiment. Donc, la direction s'était dit, il va falloir qu'on fasse attention que les gens n'aient pas envie de pêcher. parce qu'ils vont pêcher avec des poids, ils vont sans doute, ça va valser, ça risque de casser les carreaux. On va mettre un signe dans toutes les chambres, interdiction de pêcher depuis votre balcon. Vous avez compris que les gens qui n'auraient pas pensé se sont dit « Ah, oh, c'est génial ça !» Et quand ils ont réalisé ça, ils se sont dit « Qu'est-ce qu'on fait ?» Ils ont simplement retiré les signes d'interdiction dans toutes les chambres et les gens n'ont plus même pensé à faire ça. Mais c'est notre vieille nature de pêcheur, de rébellion. Vous dites à un enfant de ne pas faire quelque chose, il va prendre plaisir à voir jusqu'où il peut aller et le faire.
À un moment, en matière de circulation routière, ils avaient envisagé que les gens avaient plein de sens civique et ils mettaient des compteurs de vitesse pour alerter les gens sur le fait qu'ils étaient en dépassement.
Oui.
Et la plupart, notamment les deux roues, essayaient de passer le plus vite possible et ils se tapaient la boue en disant « Tu vois, moi j'ai fait 5 km/h de plus que toi !» et largement au-dessus de ce qui était autorisé. Finalement, ils ont fini par les enlever parce qu'ils ont aperçu que le bien était largement dénaturé.
Dénaturé. C'est terrible, mais c'est. On a tous.
C'est
temps des confessions.
Alors, j'ai voulu voir si c'est vrai. Est-ce qu'on va vraiment la vitesse? Et alors, je suis arrivée. Ah, j'ai eu une amende de 92 euros.
Merci pour cette belle illustration.
Pour avoir dépassé 4 km seulement. Puisque c'était 55 km, je voulais 5 km, donc les 4 km, c'est encore.
Και για να δείτε, αγαπητοί μου, το θέμα αυτό, κατορία μόνο και για να πάνω σε τέλε πασάσει. Αλλά σε μόνο και να πει ότι βγαίνει ένα μπομφάμα, η πας, αλλά η φύκη λέει ακοτέ, η με τι, la base la πας είσαι σε μόνο, το εγώ πλέμω, που έγραπα. Πέρα του σέκε, la πάμε να φέρει ένα κόντο λάδ, δηλαδή la base la πας είσαι σε μόνο, η εγώ πλέμε, με ούτε σοφλή και με.
Donc, c'est éviter Monaco.
Éviter Monaco. Pour les amendes et pour.
La loi ne.
C'est pas la même loi.
C'est vrai. C'est pas le même téléphone. Code postal, ça n'a rien à voir. La loi ne peut pas nous sauver.
C'est vrai, c'est pas le même indicatif.
La loi, elle révèle le péché. C'était verset 7. La loi nous incite au péché. On vient de citer quelques exemples. J'avais cité l'histoire de Parmentier qui avait fait mettre des gardes autour des pommes de terre pour inciter les gens à aller piquer les pommes de terre et commencer à manger les pommes de terre à Paris. La loi, elle va même plus loin. La loi, elle tue. Versets 10 et 11. « Moi, je mourus, ainsi le commandement qui mène à la vie se trouva pour moi mené à la mort. Car le péché, profitant de l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. » Je suis mort à cause du péché, j'ai été trompé complètement par le péché. Le péché nous donne toujours l'impression que, quelque part, Dieu, en fait, est un méchant Dieu qui ne veut pas qu'on s'amuse. Il y a des choses qu'il nous interdit parce qu'en fait, elles nous procuraient beaucoup de joie, de plaisir, de bonheur, et qu'il est un mauvais Dieu, un Dieu mauvais qui veut nous embêter. Et ça, cette notion que Dieu nous interdit certaines choses par méchanceté, c'est bien sûr complètement scandaleux. C'est un sacrilège de penser ainsi. Dieu nous interdit certaines choses parce qu'il sait qu'elles vont nous faire du mal. Et versets 12 et 13, la loi est sainte, le commandement saint, juste et bon. Et il dit, ce qui est bon, verset 13, ce qui est bon est-il donc devenu pour moi la mort? Certes non. Mais le péché, afin de se manifester en tant que péché, a produit en moi la mort par ce qui est bon, afin que par le commandement, le péché apparaisse démesurément péché. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? La loi nous montre l'horreur du péché. Nous voyons, lorsque on nous dit de pas rouler trop vite, que sans cette si on ne respecte pas ça, on risque d'avoir des choses horribles qui arrivent. La loi nous met en garde, elle nous montre l'horreur possible du péché. Et le péché apparaît démesurément péché par le commandement. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut demander à Dieu, c'est de nous donner une sainte horreur du péché. De ne pas prendre sa patience comme du laxisme. Quand il n'y a pas la punition immédiate, les gens, et nous, et moi, on a tendance à penser que ça veut dire qu'on est passé à travers les mailles du filet, que la caméra n'a pas pris une photo de ma voiture, mais de celle du voisin. Et on n'est pas incité à conduire prudemment, à respecter la loi. Et la mort nous fait toutes les conséquences du péché, et selon tous les domaines, des petits comme des grandes choses. Tout ce qui est contraire à la loi, à la bonté de Dieu, c'est non seulement en horreur à l'Éternel, mais c'est aussi très mauvais pour nous. C'est très... Encore une fois, Dieu interdit certaines choses, pas pour nous empêcher de nous amuser, mais parce qu'il sait qu'au-delà du plaisir momentané du péché, il y a toujours un plaisir momentané, sinon il n'y aurait pas de tentation. Mais il sait, un peu comme des parents avec leurs enfants, on sait que s'ils vont toucher le poil chaud, ils vont se brûler la main. Pour eux, c'est une barrière qu'on a mis, on leur dit « tu ne touches pas ». Et malheureusement, on est tous des enfants devant le péché. Et la loi est là pour nous montrer encore l'horreur du péché. On ne peut pas suivre la loi dans notre vieille nature. Et comme on disait, beaucoup de gens disent « oui, j'essaie de suivre les 10 commandements ». Puis en général, ils sont capables d'en nommer 4 ou 5 au maximum. Et je ne suis pas sûr que je pourrais vous les dire comme dans la Bible. Mais, Dieu merci, il a une autre façon de nous déclarer juste. Amen. On va... Est-ce qu'il y a des questions? Oui.
En fait, la question que tu me poses, c'est comment avoir assez de foi pour vivre pleinement selon sa nouvelle nature, parce qu'en fait on parle de transformer, le mot n'est pas juste, le mot juste c'est de mourir et de renaître, enfin de revêtir une nouvelle nature. Et c'est un peu la question que je me pose.
La semaine dernière, c'est pas pour te dire que tu n'as pas le droit de poser des questions, mais on a parlé du fait qu'il fallait, il y avait un autre papier peut-être,
elle est là.
Oui,
mais
c'est bon. J'allais juste dire qu'en fait, on doit connaître des choses. On doit savoir qu'on est plus sous l'emprise du péché, qu'on peut dire non au péché. Et j'entendais quelqu'un qui disait qu'il y a à la base 4 raisons pour lesquelles bien souvent les chrétiens n'ont pas une vie de victoire sur le péché. La première, c'est l'ignorance de certains principes dont on a parlé, notamment la semaine dernière. Nous sommes morts au péché, nous pouvons dire non au péché, nous avons l'aide, on verra qu'on a l'aide de l'Esprit Saint, mais l'ignorance pure et simple. La deuxième raison, c'est qu'on compte sur nos propres ressources pour vivre sans avoir la victoire sur le péché. Une troisième raison, ça peut être le manque de discipline personnelle. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on peut demander de l'aide à Dieu, sans faire des résolutions, mais d'éviter, par exemple, des situations de tentation, pas aller, si on est alcoolique, pas décider d'aller faire de l'évangélisation dans les bars. Des choses, des fois c'est tellement simple et pourtant les gens sont, quelquefois la tentation est telle qu'ils s'aveuglent eux-mêmes et ils se disent je vais aller, je suis fort maintenant, je vais aller, ça me fait pas peur. Et une dernière raison pour laquelle on n'a pas une vie de victoire, c'est ce qu'on appelle le légalisme. C'est-à-dire que le légalisme, c'est essayer de vivre selon un code de conduite qui m'élève moi-même. Le légaliste, il va faire remarquer qu'il peut faire certaines choses, qu'il peut résister à certains péchés. Il ne va pas parler des péchés auxquels il ne peut pas résister. Mais quand il parle des péchés, où il va les établir en mode de vie pour tout le monde. Un vrai chrétien ne vient pas à l'église le dimanche en blue jeans. Parce que le gars, il n'a pas de blue jeans chez lui, donc il ne vient jamais en blue jeans. Et il peut dire qu'il obéit à cette règle, qui est une règle extérieure. Et le légalisme, c'est un peu les œuvres de la chair d'un point de vue religieux. Et Paul était en colère contre les Galates en disant vous avez commencé dans l'esprit, vous voulez continuer par la chair, parce qu'il se rattachait à des règles, il voulait revenir à la circoncision, il voulait revenir à des œuvres. Et une des grandes choses donc, c'est de connaître notre position devant le péché en Jésus-Christ, et puis ne compter que sur Dieu pour avoir cette victoire. Reconnaître que je suis faible. Si j'ai le moindre sentiment d'arriver à avoir des victoires sur le péché, je suis en grand danger. Paul, dans 1 Corinthiens 10, 12, disait « Ainsi donc que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. » Dès que vous vous sentez fort dans un domaine, ça devient dangereux parce que vous allez baisser votre garde. J'ai pas peur de... C'est pas un verre d'alcool dans le bar où je vais faire de l'évangélisation qui va me reprendre sous son influence. Dès qu'on a l'impression d'avoir gagné du galon, je pourrais dire, dans le combat contre le péché, on est en position de grand danger. Alors, ça n'a pas répondu vraiment à tout ce que tu as, mais on va voir en fait la vraie solution dans Romains 8. Mais on va dans la deuxième partie, on va voir le combat qui peut être des fois désespérant contre le chrétien et les péchés. Si quelqu'un veut lire les chapitres. Versets 13 à 25. Voilà, on peut s'arrêter de 13 à 17 et 18 à 25. 13 à 17. Et puis quelqu'un pour. Oui, Sandrine, tu feras la suite. 18 à 25. Merci.
Ce qui est bon, est-il donc devenu pour moi la mort? Certes non. Mais le péché, afin de se manifester en tant que péché, a produit en moi la mort par ce qui est bon, afin que, par le commandement, le péché apparaisse démesurément péché. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas, mais ce que je hais, voilà ce que je fais. Si ce que je ne veux pas, je le fais, je déclare d'accord avec la loi qu'elle est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi.
Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi pour moi. Qui veut faire le bien, le mal est à présent à côté de moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon corps intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma chair, je suis esclave de la loi du péché.
Merci. Est-ce que vous avez, en lisant ce passage, j'espère que vous l'avez déjà lu, est-ce que ça vous a suscité des réactions un peu à... Qu'est-ce que vous avez pensé en lisant ce passage ?
Alors, on a l'impression qu'en fait, on n'a jamais la nouvelle nature, quoi. On se dit, mais où elle est, quoi.
Mais moi, c'est pas tout ça qui est ça que j'ai vu, parce que surtout par rapport au passage où il dit, maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. C'est comme s'il y a vraiment justement cette séparation que Jésus crée avec notre péché. Et que cette nouvelle nature, elle est manifestée, contrée par notre chair, mais elle est manifestée.
Paul dit que. Disons que quand on lit ce passage, certains se posent la question de savoir quand est-ce que Paul a écrit ça. Est-ce qu'il avait déjà écrit le passage du chapitre 6? Est-ce qu'il parle d'une expérience de son passé? Est-ce qu'il parle du présent? Est-ce que c'est une situation normale? Qu'est-ce qu'on doit en penser? Et parmi les théologiens, les commentaires, il y a un peu tout le panneau, il y en a qui disent que c'est quelque chose qui s'adresse à quelqu'un qui n'est pas converti et qui a simplement le désir de changer. Certains d'autres pensent que c'est des chrétiens mais qui sont pas affermis. D'autres pensent que c'est un combat qu'on continue de mener toute notre vie. Une chose est sûre, c'est que si on est honnête avec nous-mêmes, on se reconnaît un peu, beaucoup, dans cette description. Je ne fais pas ce que je voudrais faire, je fais ce que je ne voudrais pas. Et on a cette tension. Alors c'est vrai que Paul commence par dire que la loi est spirituelle. Et donc, moi, verset 14, il dit « Moi, je suis charnel, vendu au péché. Je suis guidé par ma vieille nature, ou je suis influencé par ma vieille nature. Et la loi, elle est spirituelle. » Et c'est un peu ce que Christ était venu nous dire. Les gens pensaient qu'ils sautaient haut, parce qu'ils sautaient 1m50 au-dessus d'un élastique, et Jésus leur montre la perche et la barre qui est à 5,50 m. Quand il disait, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, celui qui commet un meurtre sera passible du jugement, mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère raca, aujourd'hui ça fait pas
hein,
on dit pas racaille, c'est raca. Mais imbécile ou racaille, oui, sera justiciable du Sanhédrin. Celui qui dira insensé, imbécile, sera passible de la géhenne du feu. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur.
C'est plus pour vous lire, hein, c'est plus.
Donc les exigences de la loi, en fait, elles étaient beaucoup plus importantes, beaucoup plus difficiles encore que ce que pensaient les chefs religieux de son époque. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Et moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Oui.
Tu dis que les exigences de la loi étaient placées plus hautes, mais est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt de la nouvelle loi, quelque part, que Christ apporte dans les sermons sur la montagne ?
Nous,
il n'apporte pas quelque chose de nouveau qui va avec cette nouvelle nature ?
Je pense qu'il voulait montrer aux chefs religieux que la loi avait toujours été donnée pour leur montrer qu'on n'y arrivait pas sans Dieu. Et qu'ils étaient contents parce qu'ils arrivaient à sauter 1m50 et il leur dit en fait il faut sauter là-haut. Et la loi elle nous a été donnée pour nous apprendre à désespérer de nous-mêmes. Et Jésus explique, il dit pas que maintenant c'est, il dit vous avez entendu, mais moi je vous dis. Il dit pas maintenant je vous dis qu'on a changé, on a une loi plus exigeante. L'exigence elle a toujours été là. Mais au lieu de la prendre comme un aveu d'impuissance, de dire mais. Et c'est là qu'il a ces paroles fameuses. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Personne n'est parfait, on sait bien ce que ça veut dire, c'est pas possible. Parce qu'il nous dit qu'en fait, rien de moins que la perfection ne peut suffire à Dieu. Et c'est là qu'on doit, dire mais c'est pas possible. Et c'est là qu'il nous dit si c'est possible par mon Fils. Et donc il veut nous forcer à nous tourner vers Christ, à mettre notre foi en lui. Et Paul, je crois qu'il nous dit qu'il parle au présent. Il fait allusion à un combat. Et comme il y a une guerre civile qui prend place dans son cœur. Et ces problèmes, ça pourrait être, je le reconnais, mon autobiographie. Combien de fois je ne fais pas les choses que je veux et je ne fais pas les choses que je fais, celles que je ne veux pas faire. Alors, quelles sont les causes de ce combat intérieur ? Il y a le monde, le système de valeurs du monde qui rejette Dieu, le monde qui nous entoure, qui n'admet pas, qui ne se tourne pas vers Dieu. Jean disait « N'aimez pas le monde » dans 1 Jean 2,15 « N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Il continuait en disant, plutôt c'était Jacques qui disait « Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Jacques 4, 4. Encore une fois, le monde, ce n'est pas la terre, ce n'est pas la planète, c'est un système de valeurs qui est prévalent dans le monde qui nous entoure, qui veut rejeter l'existence de Dieu, qui veut ignorer Dieu, et parce qu'on sait que Dieu a tant aimé le monde par ailleurs. Tous les hommes, qu'il a donné son Fils unique. Donc c'est pas la même. Le monde, c'est pas la planète, c'est pas tous les gens, c'est le système de valeurs qui rejette, qui nie l'existence de Dieu, son influence, son amour. Donc c'est la première chose, ce système de valeurs qui nous entoure. Il y a cette personne authentique qui s'appelle le diable, ça veut dire calomniateur, le diable. Qu'on appelle aussi l'adversaire ou Satan. C'est dans Éphésiens que Paul disait « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. » Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Et là, il ajoutait, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, Monaco, non, contre les principautés dans les lieux célestes, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la ceinture pour la vérité pour ceinture, pardon. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toute circonstance le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance, priez pour les saints. Éphésiens 6, 10 à 18. Un autre passage de Pierre dit : soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui ferme en la foi et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 1 Pierre 5, 8. Et le troisième élément, c'est ce qu'on appelle la chair, la nature humaine non sanctifiée, ce que nous sommes en dehors de l'intervention ou l'action de Dieu, qu'on appelle aussi la vieille nature pécheresse, la nature de péché qui habite dans mon corps, qui n'est pas encore glorifiée dans la partie de mon intelligence qui n'a pas été encore renouvelée. Donc c'est tout l'ancien logiciel. Pas reçu la nouvelle version de l'esprit. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Paul disait dans Galates 5, 17, la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Il parlait déjà de ce combat spirituel en nous, entre l'esprit et la chair. La stratégie, c'était de se revêtir du Seigneur Jésus et de ne pas se mettre en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Romains 13, 14. Si vous essayez de produire des fruits pour Dieu par vos propres forces, vous allez échouer. Dans le chapitre 7, Paul utilise le pronom moi ou moi-même 47 fois en 25 versets. J'essaye, je vais faire, je veux faire cela, je suis à même de vouloir, mais non d'accomplir le bien. Au chapitre 8, il va l'utiliser seulement deux fois. Et on va voir apparaître quelqu'un d'autre, l'esprit, qui va prendre et ça nous donne un peu la clé du problème. Ce qui est bien, c'est de remarquer la relation entre ces trois ennemis de tout chrétien, entre le diable, le monde et la chair. C'est que le diable contrôle le monde. Le monde séduit ma chair. Le diable, c'est le prince du monde. Jean 14, 30. Jean 12, 31. Le prince de ce monde, le prince du monde. Jean 16, 11. Le prince de ce monde est jugé. Il est appelé aussi dans Éphésiens 2, 2, le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il y a donc une réalité d'un combat. Et c'est un peu le reflet de ce que Paul nous décrit ici. Qu'est-ce qui rend le combat plus difficile? C'est qu'on essaye de compter sur ses propres ressources pour se battre. Et tout ce qui est sagesse humaine, compromis, compromission, les désirs de la chair auxquels on succombe, tout ça nous affaiblit. Pierre disait, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois dans votre ignorance. Et donc là, il est important de savoir qu'on peut dire non encore une fois au péché. Parce que si on ne le sait pas, on va dire, bon, mais c'est plus fort que moi, je ne peux pas. Alors qu'en fait, on a vu, notamment dans Romains 6, que chaque fois qu'on pêche, c'est parce qu'on a décidé qu'on le voulait bien. Pas qu'on le valait bien, mais qu'on le voulait. Le péché, vous le voulez bien. Il nous apprend, par Paul, une vérité essentielle, c'est ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Il n'y a rien de bon si ça n'a pas été racheté par Jésus, si ça n'a pas été sanctifié par Jésus. Et on doit en venir, comme Paul, à reconnaître qu'on a cette impossibilité. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? C'est intéressant parce qu'on peut penser que quand il parle de ce corps de mort, il parle de sa vieille nature, de son corps qui est influencé par le péché. Mais il y a une explication beaucoup plus exacte, je pense, et beaucoup plus forte, qui explique qu'à l'époque, un des supplices qu'on pouvait faire subir à un prisonnier, c'était de l'attacher à un cadavre en décomposition. Donc on se retrouvait à essayer de respirer, à essayer de bouger, on pouvait essayer de bouger, mais on était liés pieds et mains avec un cadavre qui sentait mauvais, qui était plein de sang, qui était en décomposition. Parce que j'ai bien une image, hein, ça va ? On n'a pas parlé de l'odeur encore, mais... Et donc cette idée que notre vieille nature, elle est aussi dégoûtante que cette image. Et Paul dit, j'en peux plus d'avoir à porter cette partie de moi, cette vieille nature qui est si répugnante, qui est si déplaisante à Dieu, qui sent mauvais, qui m'empêche de marcher, qui me paralyse pratiquement. Et puis, il donne cette impression, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand vous répondiez à la question, qu'est-ce que ce passage vous a inspiré comme idée. C'est plus moi qui accomplis le péché, mais le péché qui habite en moi. C'est le mal que je commets, c'est le péché. Alors on peut dire, oh, c'est facile, ça, c'est ce que disent tous les criminels, ils disent, c'est pas ma faute, j'ai une pulsion. Et à dire, ah, moi aussi, j'ai une pulsion, alors, ça va, on vous laisse libre. Aller pulser ailleurs, et en principe ils vont pulsionner ailleurs. Mais ce qu'il veut dire, c'est qu'il réalise qu'il a toujours cette partie en lui qui n'est pas rachetée, qui n'est pas encore sous l'influence de l'Esprit-Saint. Et il dit, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur, dans mon homme intérieur. Je trouve que la loi de Dieu est belle, les commandements de Dieu, aimer votre prochain, donner... Ce que je disais tout à l'heure, ne dites pas du mal de vos ennemis, mais au contraire, tendez l'autre joue, priez pour ceux qui vous persécutent. Alors, ça va quand on lit ça le dimanche matin, qu'on est tranquille, mais quand on a la réalité, et on peut avoir des situations dans votre vie, il y en a, je sais qu'il y a certaines personnes en ce moment qui ont des réalités, il y a des gens qui sont des ennemis en ce moment, qui leur font du mal et qui leur font peur, et d'imaginer qu'on doit prier pour eux, on doit les aimer, on doit tendre l'autre joue.
Ça peut tendre la joue.
Tendre la joue, en plus tu sais que c'est pas pour être caressé, c'est pour recevoir un autre coup de poing. Mais on peut dire c'est beau. Ah, c'est beau, mais dans mon fort intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi. Quand on essaye de me donner un pain, C'est bien sûr pas. Boris, lui, t'as autre joue toujours.
Non, il marche sans tes feuilles, ça fait du mal aussi.
Je te taquine, pardon. Je devrais me méfier parce que moi je vais prendre une taquinade dans le visage. Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Et là, il y a ce cri « malheureux que je suis ». Je crois que ça, c'est un cri où en tant que chrétien ou nouveau chrétien, on doit crier. Réaliser qu'on n'y arrive pas. On pensait peut-être qu'on disait « oui, j'accepte le Seigneur » et que tout allait être facile. Il y a encore ce combat, il y a encore ces échecs, il y a encore cette force du péché. Même si on sait qu'on peut lui dire non, on n'arrive pas à le faire tout de suite. Et il ne dit pas « qu'est-ce qui va me délivrer de ce corps de mort ? Qu'est-ce qui va détacher le cadavre ?» Il dit « qui ?» Il a déjà une idée. Et il rend grâce à Jésus-Christ, notre Seigneur. Grâce soit rendue, remercions Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. Et donc, cette vieille nature qui coexiste pendant un certain temps et qui va en diminuant normalement, elle semble esclave à la loi du péché. Et pourtant, on a vu qu'il nous disait « Sachez que vous pouvez dire non, considérez-vous comme mort au péché, ne livrez pas vos membres à l'injustice, mais donnez-les à la justice de Dieu. » Et en fait, pour beaucoup de personnes, j'ai connu beaucoup de chrétiens qui se sont dit « En fait, j'ai cru à la foi chrétienne parce qu'il y avait ce passage. » Parce que c'est ça a l'écho de ce qu'on vit nous-mêmes. C'est pas du « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, une jolie légende, Dieu les sauva et vécurent. » Nous, on voit une réalité d'un combat qu'on reconnaît, malheureusement. On aimerait bien qu'on... Qu'est-ce que c'est que ça ? Il était faible, Paul. Moi, on... Et beaucoup de personnes m'ont dit, en fait, c'est quand j'ai lu ce passage que j'ai décidé que la foi chrétienne était authentique. Ce qui est bien, c'est qu'on va voir dans le chapitre 8, on aurait pu consacrer 3 sessions, on va faire 2 sessions sur le chapitre 8, on va voir comment l'Esprit Saint vient nous secourir. Et juste une petite entrée en matière, il explique que la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Et c'est un peu... C'est de la physique, ça. Il y a des lois. Il y a une loi du péché qui fait tomber. Et il y a la loi de l'esprit qui fait monter vers Dieu. Et si vous avez déjà pris l'avion, c'est la même chose. Il y a une loi, la gravité qui vous fait tomber. Et puis il y a la loi de la portance aérodynamique qui fait que ça a tendance à vous élever. Et l'avion décolle quand cette force devient supérieure à cette loi de la gravité. Et quelque part... Cette loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, elle est plus forte si on continue à faire confiance à Dieu, à son esprit, à cette loi du péché et de la mort qui nous entraîne vers le bas. Donc l'idée, c'est de décoller.
Donc on vient sur la piste quand il fait les trous de l'avion,
oui.
Et après il gagne des vitesses, et après... Il...
Voilà.
Plus on va vite, en avion,
plus on va vite,
vite
plus
en avion, il fait 1000 km chacune heure. Hein, il fait 1000 km chacune heure en avion.
Voilà, on demandera à Sébastien de nous faire une démonstration. Est-ce qu'il y a des questions encore sur ce passage juif? Alors, encore une fois, il y a des auteurs qui disent non, ça c'était Paul avant qu'il ait découvert des principes du chapitre 6. Mais ma conviction, c'est que là, il expliquait son combat au début, avant de nous donner les principes du chapitre 8. Oui.
Ce que j'ai vu, c'est qu'il pouvait y avoir cette notion où il s'adressait à des juifs qui pratiquaient beaucoup la loi, mmh. et lui-même étant l'apôtre Paul reconnu déjà par certains tout autour, disait « Mais regardez, même moi, je ne peux pas dépasser cette notion-là. Même moi, Paul, je n'arrive pas à sortir de ce corps de péché. » Et quelque part, c'était, enfin, je le vois comme ça, c'était « Prenez confiance, on y arrivera. Mm-hmm. » Puisque de toute façon, on a tous la même nature qui produit les mêmes effets. Et... Mm-hmm. Je sais pas comment l'exprimer un peu mieux. Mais
non, je vois ton idée que il veut nous encourager en disant moi aussi j'ai ce genre de problème, mais vous allez voir la solution qui consiste à, on peut le dire, à marcher selon l'esprit, à se laisser influencer de plus en plus par l'Esprit Saint, par ce qui plaît à Dieu, et on peut décoller. C'est toujours pour moi, je m'émerveille toujours. Je crois que c'est important de rester. On devient blasé pour tellement de choses. On devient blasé pour l'Internet, pour le téléphone portable, pour les avions. Et de penser à ces véhicules qui pèsent des tonnes, qui sont chargés de centaines de personnes, qui ont tous des bagages qui pèsent des centaines de kilos. Et de penser qu'on va confier notre vie à ces véhicules qui vont s'envoler dans l'air. Et Nancy, elle n'est pas trop sûre de ça. À chaque fois qu'on décolle, elle m'agrippe mes mains.
Ma fille, les avions français sont plus sûrs que la famille.
Oui, c'est ça, oui. Quand on fait dessus et qu'il y a un moteur en feu, tu es content.
Voilà.
Ça m'est arrivé.
Voilà, donc ça c'est le fameux chapitre 7. Donc rappelez-vous de Monsieur Parfait, la loi ne peut pas nous sauver. Et là on va voir que la loi ne nous rend pas saints. On a toujours ce combat, mais on va être sanctifié par le Saint-Esprit. Amen.
Amen.
Quelqu'un veut prier pour terminer? Tia, toi qui es bien réveillée. S'il te plaît.
Je vous remercie aujourd'hui de vous rassembler encore une fois pour une connaissance plus profondément ta parole, Seigneur, qui mérite incontournable, Seigneur, de notre faiblesse, en tout cas, une force, Seigneur. Alors, de nous voir cette force de le pécher encore plus sur nous, sur ton esprit, sur l'amour que tu as mis dans notre cœur, pour dépasser tous ces effets de la loi et les accomplir sans tristesse. Parce que c'est difficile quand même. Merci encore Seigneur de nous avoir fait découvrir ces paroles de Paul qui sont si vraies et qui nous comprennent tous. Nous Seigneur de la réétudier, de ramener bien dans ma voix et de partager ta bonne nouvelle qui est que tu nous délivres de ce poids du péché.
On termine là, j'ai juste une citation que je vais vous donner par un pasteur aussi, un commentaire. Romain nous dit que la solution de Dieu à nos problèmes est de commencer une toute nouvelle race. Il n'utilise pas de demi-mesure, il n'essaye pas de réparer l'ancienne, il n'essaye pas d'améliorer ce qui est en place. Il coupe l'homme à la racine et commence une nouvelle race. Mais ce qui est merveilleux et glorieux, c'est qu'il commence la nouvelle race dans la coquille de l'ancienne. De dehors, rien n'a changé. Nos corps sont toujours sujets au vieillissement, à la corruption, à la mort. Cependant, à l'intérieur, une nouvelle personne a commencé d'exister si nous avons exercé notre foi en Jésus-Christ. La solution de Dieu, c'est d'arrêter la malédiction d'Adam et de libérer en nous le pouvoir d'une vie nouvelle, la vie de Jésus lui-même. Et il dit, la loi ne nous délivre pas du péché, mais elle nous mène à celui qui nous en délivre. Et c'est pour cela que la loi est bonne. Amen.